Oui,
bonsoir.
Bonsoir. Bon, je suis très heureux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Fouquet, le directeur de l'Opéra, et Alexandre Tarot, donc, que nous accueillons aujourd'hui grâce à la librairie Mola, pour nous parler de son livre Piano Intime, ainsi qu'évidemment de tout autre sujet que vous voudrez aborder avec lui par la suite. Je voudrais lui poser une première question, puisque ça fait longtemps qu'il vient régulièrement à Bordeaux. Quels sont ses premiers souvenirs de ses spectacles, ou de ses concerts, ou de ses récitals à Bordeaux ?
Oh là là, ça fait longtemps. Mais j'étais très ami avec un jeune violoniste qui s'appelle toujours Teddy Papavrami. Et je pense que mon premier concert à Bordeaux, c'était ici, au Grand Théâtre avec lui, qui avait été organisé par une dame qui s'appelait Micheline Banzel-Auton.
Oui, absolument.
Voilà. Voilà, tout ça, c'est des vieux souvenirs, mais ce sont les premiers souvenirs dont je me souviens à Bordeaux.
Bon. Vous trouvez que la ville a changé depuis cette époque ?
Je me souviens des quais qui n'avaient rien à voir. Et voilà, mais comme je vous le disais, quand on est arrivé ici à pied, tous les deux dans la rue, la vie de pianiste, c'est une. Ça va très vite. En fait. Il m'arrive d'arriver le jour même d'un concert, parfois dans l'après-midi, jouer le soir et repartir le lendemain matin. Donc évidemment, sans avoir le temps pour visiter, ni même l'énergie, ni même la volonté. Même quand on arrive la veille d'un concert, le lendemain matin, il faut bien travailler, il faut aller vers ce concert. Tout nous dirige vers le concert qui va débuter, je ne sais pas, à 20h ou à 20h30. Et finalement, dans cette journée-là, il n'y a pas de place dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps, pour autre chose que la préparation de ce concert.
Donc, le livre que vous avez écrit, enfin que vous avez avec Nicolas Souton, est essentiellement consacré donc aux enregistrements. Vous parlez tout à l'heure des concerts. Quelle est la relation que vous faites entre pianiste de concert et pianiste d'enregistrement ?
Ce sont deux vies différentes. Ce sont deux manières de jouer différentes également. Parce que, vous voyez, là je parle devant un micro, mais c'est ça l'enregistrement. L'enregistrement, c'est vraiment chuchoter à l'oreille là d'un micro, mais qui est l'auditeur. Quand on enregistre un disque de piano, les micros sont à environ, je ne sais pas, un mètre, maximum 1,50 m du piano. Mais, donc on joue pour ce micro-là, on ne joue pas pour autre chose. Quand on est dans une salle de concert, comme par exemple votre magnifique auditorium à Bordeaux, il faut jouer pour la dernière personne qui est tout au fond du dernier balcon, au dernier rang, tout là-bas. Parfois c'est très loin. Il y a des salles dans lesquelles j'ai joué qui font jusqu'à 4000 places. Et je peux vous dire que le dernier rang, il est très très loin. Et pour ça, il faut non pas parler presque à voix basse comme je le fais maintenant, mais il faut être un chanteur wagnérien. Il faut déployer le son d'une manière considérable et aller chercher l'oreille de l'auditeur très loin. Donc c'est une toute autre manière de s'exprimer. C'est une toute autre manière de jouer du piano.
Et pour vous, les deux ont la même importance ?
Alors, pour moi, les deux ont la même importance, mais ce n'est pas le cas de tous les pianistes. Il y a des pianistes de disque, il y a des pianistes de concert. Il y a des pianistes qui sont bien meilleurs au disque, d'autres bien meilleurs au concert. Moi, je ne sais pas si je suis bon dans l'un et dans l'autre, si ça se trouve, je suis mauvais dans les deux, mais les deux me sont indispensables. C'est-à-dire que l'enfermement, la mise en loge, vraiment s'enfermer à double tour, s'éloigner du monde pendant une semaine pour être face à une œuvre. Un enregistrement, c'est quelque chose de très, j'allais dire douloureux, mais c'est douloureux. On peut rire, mais on peut pleurer. En général, on pleure toujours d'ailleurs. L'enregistrement est toujours un moment de désillusion totale. Parce que c'est un moment très fort, très lourd, mais je me dis toujours c'est le dernier disque, et puis dès que je sors du studio, je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Le concert, j'ai aussi envie d'y retourner, mais pour d'autres raisons. D'abord parce qu'il y a le public, c'est un échange avec le public. C'est un art éphémère, on joue mais il ne reste aucune trace. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une autre manière de jouer. Il y a aussi la peur qui est une toute autre peur que celle de l'enregistrement, c'est la peur du vide, la peur de ce saut en parachute qui est l'entrée en scène, comme sauter dans une piscine, dans une eau dont on ne connaîtrait pas la température. Et ça, ce n'est pas le cas de l'enregistrement, qui est dans un lieu qu'on connaît, qu'on habite, et on enregistre pendant une semaine. Ça n'a rien à voir avec l'entrée en scène, qui ne dure que quelques fractions de secondes, mais qui se prépare des heures avant, parfois des jours, des années avant. Et c'est aussi un moment très fort. Puis le rapport avec le public, mais aussi essentiel que le rapport que j'entretiens avec ce même public à travers le disque. Le même public, qui n'est pas forcément le même public d'ailleurs. Il y a des gens qui n'achètent aucun disque, mais qui vont au concert, et vice-versa.
Et qu'est-ce que vous pensez des enregistrements, entre guillemets, volés ? C'est-à-dire que certains de vos collègues sortent de scène dès qu'ils voient quelqu'un avec un téléphone qui est en train de les filmer. Ça se présente de plus en plus souvent. On trouve sur certains sites internet des enregistrements pris comme ça à la volée. Est-ce que ça vous met en colère ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous pose un problème ?
Ah ben ça plaît pas, ça c'est sûr, ça ne plaît à personne. Et puis on ne peut rien y faire. On est totalement passif face à ce tsunami d'images volées, en effet. Faut éviter d'ouvrir son ordinateur, tout simplement. Éviter d'aller sur Internet. Parce que ce qui se passe, c'est... Comment dire ? Qu'est-ce qui m'est le plus pénible ? Qu'est-ce qu'on peut me voler de plus intime ? Je dirais que ce sont plutôt les moments de répétition, par exemple. Il y a, je ne vais pas dire le nom, parce que c'est... Pour lui, je ne vais pas le faire. Un très grand pianiste que j'estime énormément et qui a été pris, mais c'était une vidéo d'il y a 20 ans, mais qui est ce qu'on trouve sur YouTube. Il est pris dans une salle de concert que je ne connais pas, dans un pays de l'Est. Et il travaille. Et il y avait là quelqu'un avec une vidéo. C'était à l'époque de la vidéo. Il est au fond de la salle. Et c'est une vidéo qui dure peut-être 20 minutes. Et ce pianiste est là sur scène. Il se croit seul. Donc il joue, il chante un peu, il se lève, il rejoue lentement, puis ça va pas, il se lève, il fait ce que l'on fait quand on prépare un concert, l'après-midi ou le matin du concert. Ce sont des moments extrêmement intimes. On sait qu'il peut y avoir des micros. Le directeur du théâtre peut entendre de son bureau ce qui se passe sur scène. Enfin, le public n'a pas à avoir accès à ce moment très intime. Et cette vidéo me fait vraiment me bouleverse. C'est une belle vidéo parce que c'est un instant volé et que c'est très beau et c'est un très grand pianiste, on voit comment il travaille. Mais voilà ce qui est très déroutant. Alors j'ai eu plusieurs choses comme ça qui sont sorties. C'est pas pour autant qu'il faut aller après cette réunion sur YouTube. Et puis j'ai pu faire enlever des images. Par exemple, quand il s'agit d'une salle qu'il est interdit de filmer sans autorisation de la direction. Donc là, il ne s'agit pas de moi, parce que quand je joue du Chopin ou du Beethoven, je ne peux pas dire, je ne suis pas l'auteur, je ne suis que l'interprète. Donc on a le droit de me filmer, mais et puis c'est un lieu public. Donc on a le droit de faire des images, mais si le bout de bois qui est derrière a été, même si c'est une planche de bois toute bête, si cette planche de bois a été dessinée par un architecte, et que la salle doit donner son autorisation pour la diffusion d'une image, à ce moment-là, on peut faire intervenir. Mais c'est une longue... C'est un long chemin. Et j'avoue que j'ai abandonné. Il doit y avoir maintenant des images que je ne regarde plus, en fait. Mais c'est vrai que c'est pénible.
Et la tendance aujourd'hui, maintenant, des maisons de disques qui n'ont plus les moyens ou qui n'ont plus l'envie d'enregistrer, comme vous le dites, en réel disque... dans des conditions parfaites, et qui maintenant privilégie les enregistrements dits « live ». Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pouvoir un jour accepter, ou est-ce que vous préférez toujours cette l'isolation du travail dans le studio pour un enregistrement.
Oui, l'isolement du studio, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais il faut savoir que les enregistrements live ne sont jamais totalement live. Les enregistrements qu'on appelle live, il y a tromperie sur la marchandise, parce que c'est souvent, quand il s'agit d'opéra, plusieurs soirées. Quand il s'agit d'un concerto, ben je suis bien placé pour le dire, parce que le concerto de Thierry Pécou, un concerto contemporain que j'avais enregistré à sa création, donc au Théâtre des Champs-Élysées, on a enregistré le matin la répétition, ensuite on a fait un filage avec orchestre, on a enregistré tout ce filage, il y avait évidemment le concert du soir, et puis de longues cadences piano solo sans orchestre que j'ai enregistré 5-6 fois dans l'après-midi, donc c'était une journée entière d'enregistrement. Il y a des passages de cet enregistrement qui ne sont pas live. Voilà, donc le live, qu'est-ce qu'apporte le live ? Le live est très différent de l'enregistrement sans public parce qu'il y a justement quelque chose, une présence. Quand on joue devant un public, on ne joue pas devant un public, on joue avec le public. Et le public vous apporte toute une énergie, plein d'énergies différentes, plein de couleurs différentes. Le public vous dirige, le public vous emmène vers un tempo que vous n'adoptez pas d'habitude. Si vous avez joué dans une autre ville la soirée précédente, vous avez joué à un autre tempo. Et là, vous choisissez un autre tempo. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu telle et telle chose dans la journée, parce que vous êtes de mauvaise humeur ou de bonne humeur, parce qu'il y a tel ami dans la salle ou tel ennemi dans la salle, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a aussi, et ça c'est certain, le public, une masse qui est constituée de 1000 ou 2000 personnes individuelles qui envoient sur la scène chacune une énergie différente. Et ça fait une sorte de kaléidoscope d'énergie, de couleurs, qui font que sur scène, on a l'impression d'être un médium qui absorbe les énergies. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et j'ai complètement oublié votre question.
De savoir si vous êtes pour ou contre la transformation quasi définitive des enregistrements en enregistrement live.
Ce qui est sûr, c'est que depuis cette année, il n'y a plus d'enregistrement d'opéra en studio. C'est quelque chose qui me crève le cœur, parce que tous ces grands enregistrements du passé, et encore un passé très proche, je ne sais pas, avec Pavarotti, La Callas, ces grands chanteurs, c'était quand même quelque chose. Des enregistrements qui prenaient parfois 2 semaines avec un grand chef, de grands chanteurs et un grand orchestre. Puisqu'aujourd'hui, les maisons de disques ne peuvent pas savoir si elles vont vendre assez de disques dans 3 ans, elles ne peuvent plus s'engager sur de grandes productions. Un disque de piano, on peut décider de le faire en 1 mois, il n'y a pas de problème. Mais un disque avec de grands chanteurs, un grand chef et un grand orchestre, ça se prévoit, si possible 5 ans avant, au minimum 3 ans avant. C'est-à-dire depuis l'année dernière, enfin les derniers disques, hein, Carmen qui est sorti avec Rattle, et puis quelques disques, peut-être des disques d'opéra baroque, parce que l'orchestre est plus petit, c'est possible, mais des grands opéras, on va dire des grands Verdi, des grands Mozart, des grands Wagner, enregistrés en studio, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est quand même fou de... Je ne pouvais pas imaginer, quand j'écris ce livre, c'est aussi un hommage à l'enregistrement et à tous ces disques qui m'ont fasciné, qui m'ont façonné et qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Eh bien, ceux qui sont consacrés à l'opéra, pas en live, mais en studio, n'existent plus. Par contre, heureusement qu'il y a le live, parce que beaucoup d'opéras aujourd'hui sont enregistrés en public, à travers plusieurs soirées, et ça peut marcher très bien. Mais ça ne remplace pas, c'est quelque chose de différent, parce qu'il y a la magie de la soirée, mais il n'y a pas le détail. Par exemple, je vous donne un exemple qui me concerne, c'est les concertos de Ravel. Ça fait 10 ans, depuis la sortie de mon intégrale Ravel, que je dois enregistrer les concertos de Ravel. On a eu mille et un projets, mais je voulais tel orchestre, tel chef. C'était toujours très compliqué. Et on m'a proposé de le faire avec l'orchestre de Philadelphie et Yannick Nézet-Séguin, que j'adore. Et c'est un très bon orchestre, Philadelphie. Mais il n'y avait qu'une solution, c'était de le faire en concert et en trois soirs. Trois soirs, c'est quand même beaucoup, on peut faire de très belles choses. Mais j'ai dit non, parce que pour moi, Ravel demande de peaufiner chaque détail, surtout la partie d'orchestre aussi, chaque partie en fait, car chaque musicien dans l'orchestre est important chez Ravel. Et je ne pouvais pas me résoudre à faire cet enregistrement qui n'aurait pas été un véritable live pourtant.
Donc vous pensez que l'enregistrement studio permet d'entendre quelque chose que personne d'autre n'entend dans une salle de concert ?
Ah, c'est certain. Ce que vous entendez dans ce disque, vous ne l'entendrez jamais. Vous ne m'entendrez pas jouer comme ça en concert. Parce que, voilà, ce disque autographe, c'est une suite de bis. Les bis, c'est ce que l'on joue à la fin du concert. Donc, justement, dans un moment où on est très excité, mais où il y a un relâchement, où c'est, on est dans le concert, on n'y est plus, mais c'est le moment où on va se séparer, il y a toute l'excitation du concert, on retombe mais on ne retombe pas totalement, c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent dans cet espace de la fin du concert. On ne le ressent absolument pas à l'enregistrement. Donc c'est un disque de bis en hommage à tous ces pianistes des années 60 et 70 qui ont enregistré des disques de bis à leur manière, tous des sortes d'autoportraits. Mais ces disques de bis, comme le mien, n'ont absolument rien à voir avec les bis, même si ce sont les mêmes pièces, avec les bis que l'on entend en live.
Pour revenir donc à votre carrière discographique, il y a, je crois, d'après ce que j'ai compris de ce livre et de ce qu'on a pu dire, c'est qu'il y a un avant Rameau et un après Rameau. Donc avant le disque Rameau et après le disque Rameau. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette période qui vous a mené à Rameau et en quoi ce disque Rameau a complètement transformé votre carrière?
Alors j'ai enregistré un disque Rameau il y a 12 ans. C'est vrai qu'avant ce disque Rameau, j'avais beaucoup de mal à me faire connaître. Enfin, il faut dire que je ne faisais rien pour me faire connaître, mais j'avais au moins cette chance de pouvoir enregistrer des disques. C'est aussi pour ça que j'ai voulu témoigner avec ce livre de mon parcours. C'est-à-dire que dès l'âge de 21 ans, j'ai enregistré des disques. C'était beaucoup trop tôt. Ces disques ça ne servait à rien. Pour moi, ça me servait, mais c'était un plaisir égoïste. Ces disques ne se vendaient pas, personne ne m'en parlait. Donc j'avais vraiment l'impression de les enregistrer uniquement pour moi. Mais j'avais cette chance au moins de pouvoir accoucher de ce travail. Et je ne gagnais pas d'argent avec, mais au moins j'avais l'impression de vivre. Voilà. Et un artiste qui ne peut pas s'exprimer, c'est un artiste mort. J'avais très peu de concerts, mais j'avais au moins mes disques. Et j'ai commencé tout de même à me faire connaître, mais tout d'un coup, j'ai enregistré un disque qui a eu un succès considérable, totalement inimaginable quelques jours avant sa sortie. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne jouais pas moins bien 5 jours avant et je n'ai pas joué beaucoup mieux du jour au lendemain. Ce n'était pas une idée particulièrement originale. Je jouais certes de la musique baroque sur un piano moderne, mais des milliers de pianistes l'avaient fait auparavant. Pas les 20 dernières années avant mon disque, mais quand même, ce n'était pas une idée révolutionnaire. Et j'avais simplement enregistré la musique de Rameau, parce que Rameau est une sorte d'arrière-grand-père de nombreux compositeurs français, comme Debussy, Ravel et bien d'autres. Et c'était un retour aux sources, c'était un travail tout à fait naturel que j'effectuais là. Et j'ai fait ce disque, c'était mon premier disque solo chez Harmonia Mundi. Pour la première fois, j'enregistrais en solo pour un label qui avait de la consistance. Et ils avaient d'ailleurs très peur, enfin bon, ils n'en ont pas trop parlé. Ils se sont dit, mon Dieu, nous qui faisons de la musique baroque avec les plus grands interprètes de musique baroque, voilà un jeune qui vient nous jouer du baroque sur un piano moderne, qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, le jour de la sortie de ce disque, il y a eu une page dans Le Monde par Renaud Machard, un grand critique, je dis grand, je l'aime bien évidemment parce qu'il il m'adorait. Mais je dis ça parce que c'est vraiment drôle. J'ai l'impression que cet article, cette page dans Le Monde a donné un élan. C'est comme si tous les journalistes, d'un coup, après cette page, avaient... Je ne suis pas sûr que sans cette page, il y aurait eu cette unanimité ou cette quasi-unanimité, parce qu'on ne sait pas ce que pense tout le monde. Mais voilà. Et puis après, il y a eu le public qui m'a entendu dans ces œuvres-là et qui m'a fait confiance. Avoir la confiance de quelqu'un ou d'un public, c'est énorme, surtout quand on manque de confiance, surtout quand on n'a pas de concert, surtout quand on n'est pas rentré dans un circuit international, je ne sais pas. Je ne souhaitais pas faire une grande carrière, mais je voulais jouer. Et tout d'un coup, mon agent a reçu des centaines de coups de téléphone d'organisateurs qui parfois... lui raccrochait au nez quand elle les appelait pour leur parler de moi, qui tout d'un coup lui demandait vraiment de m'inviter le plus vite possible. Et donc on s'est beaucoup amusé, Catherine Lebris, mon agent et moi. Et puis ce disque a été connu internationalement et donc j'ai été invité dans une grande série. Voilà, ça a été le début de ce qu'on peut appeler, je déteste ce mot, mais il n'y en a qu'un, la carrière.
Et vous avez après ça donné des concerts en... mélangeant ces pièces de Rameau avec des pièces contemporaines que vous aviez commandées.
Ici, oui, j'ai fait ça ici et puis dans d'autres
villes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'idée qui sous-tendait ce projet ?
Ben, j'ai toujours aimé créer des liens entre les gens, entre les choses et entre les musiques. Là, j'avais fait un projet qui a fait l'objet d'une tournée et j'avais demandé à des jeunes compositeurs de ma génération, d'écrire chacun une pièce qui serait en quelque sorte le miroir d'un des mouvements de la suite en la de Jean-Philippe Rameau. Et donc chacun a écrit, par exemple pour l'allemande, c'est Bruno Mantovani qui a écrit un morceau qu'il a appelé Italienne, mais qui reprenait certains aspects, certaines cellules mélodiques de l'allemande, de Rameau, etc. Et j'ai joué, comme je l'ai fait ici au Grand Théâtre, c'était, je pense, il y a maintenant 11 ans, 10-11 ans, je jouais donc en alternance les pièces de Rameau et leur miroir, comme ça. Et c'était, je crois, un beau programme.
C'était un très beau programme, oui. Et après ce disque Rameau, donc je suppose que vous avez eu beaucoup plus de liberté vis-à-vis des maisons de disques pour imposer ou proposer des projets qui soient plus facilement acceptés.
Voilà, alors il faut dire qu'avant, je faisais aussi ce que je veux. J'ai toujours fait ce que je veux, je suis un électron libre. Alors avec les petites maisons de disques, j'avais, je dis petites, mais elles étaient parfois grandes par leur qualité, parce qu'il y a beaucoup de petits labels qui font un travail formidable. Et j'étais toujours dans un dialogue constant avec ces labels. Je leur disais, voilà, j'ai envie de faire ça. Puis s'ils n'avaient pas envie de le faire, j'allais le faire ailleurs. Mais j'ai toujours fait ce que je voulais faire. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs pendant au moins une dizaine d'années de ne pas être invité. Et donc après, je n'ai pas changé. Et avec Harmonia Mundi, j'ai fait pratiquement tout ce que je voulais faire. C'est une alternance entre des disques consacrés à Chopin. J'ai fait 3 disques Chopin, quelques disques de musique de chambre, des disques de musique baroque, Couperin, Bach. J'ai fait une intégrale Ravel. Et puis voilà, ça a duré 9 ans. Ensuite, je suis rentré chez Virgin, qui s'appelle maintenant Erato, mais qui est la même maison de disques. Et puis là, j'ai rencontré une véritable famille. C'est comme pour les livres, hein. Un éditeur de disques, c'est comme un éditeur de livres. Au départ, c'est une famille. Et on se sent accueilli par cette famille, ou on ne se sent pas du tout accueilli par cette famille. Et quand je suis arrivé chez Virgin Classics, j'ai vraiment eu l'impression d'être accueilli à bras ouverts et par des gens extrêmement professionnels et très gentils. Ils ne sont pas là, donc c'est vraiment sincère ce que je dis. Et surtout, des personnes avec lesquelles j'ai pu lancer des projets fous. Comme l'année dernière, Le Bœuf sur le Toit, qui était un disque consacré à la musique de jazz des années 20. Donc un pianiste classique n'est pas du tout attendu dans des pièces de Jean Vienner ou de Clément Doucet ou de Cole Porter. Et c'est un disque très compliqué qui demandait de l'argent parce que c'est un disque long à enregistrer. Il fallait faire des recherches musicologiques. Chez Virgin, on m'a dit « Oui, c'est excitant, c'est merveilleux, on va y aller. » Et ça, ça me plaît. Il faut toujours que, je pense, la parler au nom de tous les musiciens, il faut se sentir en confiance avec notre maison de disques. Il faut sentir un désir commun. Il faut vraiment sentir que les gens ont envie de sortir ce disque, même s'il est compliqué, même... Dans le cas du Rameau, c'était vraiment... moi, je pensais que le disque allait passer inaperçu, je m'étais tellement habitué. Voilà, même si c'est un programme qui paraît invendable, il faut du désir. Si vraiment tout le monde, si tout le monde se tient par la main, ça marche. Pas toujours. Presque.
Et la raison profonde qui vous a fait changer de maison de disque ?
Oh, ça c'est des raisons personnelles. Voilà. Oui, oui. Et puis parce qu'il est arrivé un moment où, encore une fois, je suis un électron libre et ce que je proposais ne marchait plus. Mais c'est pas grave.
Non, c'est une
L'important, c'est
une
d'enregistrer. Et d'être, voilà, Erato est vraiment une très bonne maison, avec des artistes aussi que je vénère. C'est rentrer chez Virgin Classics, qui en fait, ces maisons de disques changent de nom, mais bon, l'histoire du disque est faite de petites révolutions où les maisons de disques ont changé de nom. CBS s'est transformé en Sony. On s'en rappelle même plus maintenant, mais voilà, donc dans quelques années, même pas quelques mois, on fera plus du tout le rapport entre Erato et Virgin, mais Virgin c'était EMI, c'était Pathé Marconi, donc rentrer chez Virgin Classics pour moi c'était rentrer dans une maison dans laquelle ont vécu Maria Callas, Georges Prêtre, Paul Tortelier, et aujourd'hui, des artistes que j'aime énormément, comme Nathalie Dessay, Piotr Anderszewski, Philippe Jaroussky et tant d'autres.
Dans Le Bœuf sur le Toit, vous accompagnez des chanteurs. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une question un peu personnelle, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà pensé travailler avec un chanteur des cycles importants de Schubert, de Schumann ou de Beethoven?
Oui, j'ai accompagné beaucoup de chanteurs quand j'étais plus jeune, en fait, à une époque donc, où je n'avais pas de concert en solo. Faire de la musique de chambre, mais accompagner un chanteur, c'est faire de la musique de chambre, à mon sens, ben, c'était une manière pour moi d'avoir des concerts. Donc, j'en parle dans ce livre, d'ailleurs, dans tout un chapitre où j'explique que j'étais là, au fond de ma grotte, parce que j'habitais dans un rez-de-chaussée froid, en pierre, au fond d'une cour, sans lumière. J'attendais, mais ça venait pas. Et finalement, je proposais à mes copains musiciens, qu'ils soient violonistes, violoncellistes, trompettistes ou chanteurs, je leur disais, mais écoutez, moi je vous accompagne, faisons des concerts ensemble. Et c'est ces musiciens-là qui m'invitaient à donner des concerts à droite et à gauche. Puis les chanteurs sont nos maîtres, à nous pianistes qui jouons d'un instrument purement mécanique, mais qui est peut-être paradoxalement l'instrument qui chante le plus. Et donc, je crois que demander conseil à un chanteur, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, un chanteur, je faisais venir chez moi un chanteur ou une chanteuse, je lui disais « Assieds-toi là, je vais te jouer telle nocturne de Chopin ou une sonate de Chopin. » Je parle de Chopin parce que c'est vraiment un piano qui chante. Et donne-moi des conseils. Et le chanteur me donnait ses conseils qui n'étaient pas les mêmes que ceux d'un professeur de piano. De toute façon, je n'avais plus de professeur non plus. Parce que les chanteurs, par exemple, dans un intervalle, ta-tam, pour atteindre une note aiguë, ils ne vont pas faire ta-tam comme au piano. Ils vont faire ta-tam. Ils vont prendre le temps d'atteindre cette note. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais la respiration... Un chanteur a besoin de respirer, il ne peut pas jouer. Donc il va dire à un pianiste, mais là, respire, prends le temps. Plein de choses, et je dois énormément au chanteur. Mon père était chanteur. Vous savez que mon père a chanté à Bordeaux. Mon père était chanteur.
Et il a chanté... professeur de danse.
Oui, et mon père a chanté. Ici. Comment s'appelle ce théâtre où il y avait beaucoup d'opérettes dans les années 50?
L'Alhambra.
Fémina. Mon père a chanté au Fémina. Il a chanté plein d'opérettes. C'est un chanteur d'opérettes. Donc j'ai ça dans le sang.
Il y a un compositeur auquel on vous associerait volontiers, dont vous ne parlez pas du tout dans votre livre, c'est Mozart. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou que vous ne souhaitez pas un compositeur qui vous intimide?
Alors Mozart fait peur à tout musicien, parce que quand on joue Mozart, on a l'impression d'être tout nu. Je ne sais pas comment dire les choses autrement, mais quand on est sur une scène et qu'on joue Mozart, on a vraiment l'impression d'être sans... On ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher. Donc c'est probablement le compositeur le plus difficile à jouer. J'avais un projet Mozart avec Harmonia Mundi et j'enregistrerai probablement...
Un jour.
Bientôt un disque Mozart. Voilà, mais c'est
et
un compositeur que j'ai joué.
Oui,
je joue énormément Mozart. C'est-à-dire que la discographie d'un musicien n'est pas forcément le reflet de son répertoire. Et on identifie un pianiste ou un autre instrumentiste, un soliste, souvent à ce qu'il a enregistré, plus qu'à ce, même si on l'a entendu dans un concerto de Rachmaninov, voilà un compositeur que je joue souvent mais que je n'ai pas enregistré, on va plutôt l'identifier, lui mettre une étiquette ou des étiquettes par les disques qu'il a laissés. C'est ça la véritable trace qu'il laisse. Ce sont les disques, beaucoup plus que les concerts.
Et Rachmaninov, par exemple, dont vous parlez, vous considérez que c'est un compositeur qui n'est pas simplement un grand virtuose, c'est aussi un grand compositeur.
Alors la virtuosité, c'est quelque chose, j'allais dire, de facile, mais qui est donné à beaucoup de monde. Jouer de manière virtuose, on parlait de Mozart tout à l'heure, Mozart n'est pas véritablement virtuose, en tout cas à côté de Rachmaninov, c'est rien, mais c'est beaucoup plus difficile à jouer que Rachmaninov. Rachmaninov va faire beaucoup plus d'effets sur scène, c'est sûr. J'ai joué le deuxième concerto de Rachmaninov, qui est en plus un chef-d'œuvre. Il est très difficile, je ne dis pas que ce n'est rien à jouer, mais je dirais que jouer une sonate, même la sonate dite facile de Mozart, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'ai encore oublié votre question.
Mais, non, ce serait oui. Le conseil, c'est un grand compositeur, Rachmaninov.
Si c'était un grand compositeur, ah, pour le moins, oui. Moi, Rachmaninov fait partie des... C'est drôle parce que Rachmaninov a mis du temps.
Il a une mauvaise réputation.
De son vivant, il n'était pas considéré. Puisque, bon, étant parti aux États-Unis, écrivant une musique pourtant très russe, mais à l'époque considérée comme une musique post-romantique, avec des mélodies écrites parfois sur trois notes, donc ça déconcertait beaucoup de professionnels. Ils ne voyaient pas en lui un grand orchestrateur, ils voyaient en lui surtout un pianiste, parce que ça a été, à mon avis, le plus grand pianiste de l'histoire. Enfin, dans ceux qui nous ont laissé des témoignages sonores. Pour moi, c'est vraiment le plus grand pianiste. Donc, pianiste-compositeur, il n'était pas considéré comme un grand compositeur. Et encore, je dirais, il y a 15-20 ans, il était considéré comme un compositeur, enfin, ça dépend des pays, mais comme un compositeur pas très sérieux. Un peu un compositeur, je ne sais pas, trop sucré. Et puis, avec le temps, c'est comme certains bâtiments, on voit certains bâtiments aujourd'hui des années 60 qui nous ont hérissé le poil pendant des années, et maintenant on découvre que ce sont des joyaux. C'est un peu pareil pour Rachmaninov. Il a mis le temps, mais aujourd'hui, il c'est un incontournable. Et on se rend compte que ces mélodies, parfois écrites justement sur trois notes, mais avec une science de l'harmonie tellement poussée derrière, eh bien, cette musique-là devient aussi haute et aussi essentielle que les grands compositeurs que sont Mozart, Beethoven ou Bach.
Beaucoup de pianistes deviennent chefs d'orchestre. Est-ce que ça vous a tenté?
Ça, j'ai fait des études de direction d'orchestre, mais non, je crois qu'on ne peut pas tout faire.
Il y en a qui le font.
Mais vous remarquerez que les pianistes qui sont, ou les solistes qui sont également chefs d'orchestre, ce sont souvent, alors c'est un pianiste, ce sont souvent de mauvais pianistes qui sont de bons chefs d'orchestre, ou de très bons pianistes, mais qui sont de très mauvais chefs d'orchestre. Et là, c'est systématique.
On ne va citer personne.
Mais c'est systématique.
Je crois malheureusement qu'on doit arrêter là. Merci beaucoup de cette...